Voilà, on est aujourd'hui le lundi 4 octobre, on est le 26 Tishrei et on continue notre deuxième cours sur le livre de Josué. On a expliqué hier que finalement, et on expliquera plus encore aujourd'hui, que la Torah de Moshe, c'est-à-dire la Torah qui part du récit de la création jusqu'à la fin des 40 ans dans le désert, c'est-à-dire juste avant l'entrée des enfants d'Israël en terre d'Israël, cette Torah-là, on l'a appelée hier la Torah de la vérité, on l'a comparée au soleil. Torah de la vérité parce que c'est elle qui nous dévoile les règles et les principes fondamentaux qui vont gérer la relation entre Dieu et son monde. Torah du soleil parce que, on l'a expliqué hier, c'est une Torah dont la lumière est extrêmement forte, puissante, et que rien ne peut obscurcir. C'est la raison pour laquelle la Torah de Moshe nous accompagne aussi, et surtout en dehors des frontières de notre terre. C'est la raison pour laquelle elle a été donnée dans le désert, précisément en dehors des frontières, pour nous montrer que ni l'exil, ni nos fautes ne peuvent porter atteinte à la Torah de Moshe, tellement sa lumière spirituelle est forte. C'est la raison pour laquelle on a expliqué hier que malgré la faute du veau d'or, elle n'a pas disparu. Elle a été, les tables, la matière a été brisée, mais la Torah n'a pas disparu et les tables nous ont été redonnées. Si la faute du veau d'or n'a pas été capable de nous priver de la Torah, bien évidemment, aucune faute ne peut nous priver de la Torah. Donc il fallait cette dimension qui est incarnée par Moshe, parce que c'est cette dimension qui va permettre à Israël de traverser l'histoire, malgré les fautes, malgré le fait que nous ne soyons plus sur notre terre. Plus encore, nous avons souvent remarqué et fait remarquer dans différents cours que la plupart des œuvres les plus prodigieuses de la Torah en général ont précisément été produites en exil et parfois même en dehors des frontières de notre terre. Le Zohar a été produit à l'intérieur des frontières de notre terre, mais en pleine période d'exil. Tellement en exil que Rabbi Shimon a dû se réfugier, se cacher dans une grotte, parce que sa tête avait été mise à prix par les Romains. Donc on était en pleine période d'exil. Mais le Talmud, pour ne parler que de lui, et les Midrashim, et quantité d'autres commentaires dans toutes les générations, ont précisément été dévoilés à l'extérieur, pas seulement en exil, mais à l'extérieur aussi des frontières de notre terre. Toutes ces dimensions, tous ces aspects de la Torah s'enracinent dans ce que j'ai appelé hier la Torah de Moshe, c'est-à-dire une Torah qui est au-delà de l'espace-temps, qui brille d'une certaine manière, d'une manière surnaturelle, et qu'aucune des contingences de l'histoire humaine terrestre ne peut affaiblir. Mais, aussi forte et aussi puissante soit cette Torah, ce n'est pas encore la finalité, la perfection au niveau de la Torah. La perfection au niveau de la Torah va précisément être ce que j'ai appelé hier, à la différence de la Torah de la vérité, la Torah de la royauté. La Torah de la royauté qui, elle, ne peut s'incarner qu'à l'intérieur des frontières de la terre d'Israël. Quelle est la différence fondamentale entre la Torah de la vérité et la Torah de la royauté? C'est que la Torah de la vérité concerne essentiellement, voire même uniquement, des individus, c'est-à-dire lorsque nous sommes un peuple et non une nation, parce que lorsque nous sommes en exil, et à plus forte raison, en dehors des frontières de notre terre, même si nous continuons à être des millions, dans la mesure où nous vivons dans des endroits séparés, privés des institutions d'une nation, nous sommes à ce moment-là un peuple et non une nation. Donc la Torah qui brille et qui éclaire les âmes d'Israël à ce moment-là est bien sûr la Torah de vérité, mais la Torah d'un peuple et non la Torah d'une nation. Mais la finalité est d'arriver à dévoiler sur terre la Torah de la nation juive, c'est-à-dire lorsque le peuple est réuni à l'intérieur de ses frontières, doté de toutes ces institutions, qu'il fonctionne pas seulement comme un peuple, mais comme une nation, et seulement à ce moment-là, la Torah a fini, on pourrait dire, son dévoilement, jusqu'au dévoilement le plus parfait, qui est le dévoilement de la royauté, c'est-à-dire donc, comment faire descendre, comment incarner cette vérité à l'intérieur d'une nation concrète, terrestre, confrontée à des problèmes auxquels sont confrontées toutes les nations, avec leurs difficultés, avec leurs épreuves, avec leurs tentations, et que malgré tout, dotée de cette puissance qui est la Torah, cette nation juive arrive à montrer un chemin différent des 70 autres, au point que ce soit ce chemin qui finisse par convaincre toutes les nations de la vérité et de l'authenticité de ce chemin. Et lorsque toutes les nations seront convaincues, c'est ce que l'on appelle dans notre langage à nous la délivrance finale, où à ce moment-là, Dieu est reconnu non comme Père ou comme Créateur uniquement, qui sont des reconnaissances qui sont liées à l'exil, car en exil on peut reconnaître évidemment, on a le devoir de reconnaître Dieu comme Créateur, même comme Père, car même en exil il continue à se comporter avec nous aussi comme un Père, mais on ne peut pas en exil le reconnaître comme un roi. Comment un peuple éparpillé aux quatre coins de la terre, un peuple méprisé, un peuple poursuivi et plus encore, comment peut-il proclamer la royauté de Dieu? C'est une aberration totale. Vous imaginez, c'est comme si quelqu'un squelettique qui n'a pas de quoi manger se déclarait être le fils de l'homme le plus riche de la terre. La première chose qu'on lui demandera, mais où est donc ton foutu père? Pourquoi il te laisse crever de faim? Mais c'est exactement ce que les prophètes, entre autres le prophète Yéhézkel, disaient dans son langage à lui. Lorsque nous sommes dispersés au milieu des nations et que nous sommes poursuivis parmi les nations, qu'est-ce que nous disent les nations? Où est Dieu votre roi? Ils ne disent pas où est votre Dieu le Créateur ou Dieu même votre Père. Mais où est Dieu votre roi? Où est ce roi qui abandonne ses serviteurs? C'est donc clair que la notion de royauté ne peut pas se dévoiler en dehors des frontières d'Israël. Et même si nous continuons dans nos prières à proclamer Dieu comme roi, c'est plus comme un souhait qu'on attend de voir se réaliser que comme une réalité déjà concrète et tangible. Donc tout le monde comprend que finalement la Torah de la royauté est finalement beaucoup plus importante que la Torah de la vérité, parce que la Torah de la royauté va faire descendre la vérité sur terre et va dévoiler au monde entier que non seulement Dieu n'a pas seulement créé le monde, mais que véritablement, malgré toutes les apparences contraires, il l'a constamment dirigé, il n'a jamais abandonné son peuple, il n'a jamais renoncé au projet, et tout a continué, même si nous ne le comprenions pas, tout a continué jusqu'à l'avènement final qui est celui de la délivrance finale. Donc cette Torah de la royauté a commencé avec Josué. Et tout ce qui va suivre Josué jusqu'à la destruction du premier temple s'inscrit à l'intérieur de ce qu'on a commencé à appeler hier la Torah de la royauté. Simplement, on a posé une question, je reviens pratiquement sur tout le cours d'hier, car ce sont des notions qui sont tellement importantes en ce qui me concerne. Si je me les répétais 1 milliard de fois, je vous promets que je ne m'ennuierai pas, parce qu'à chaque fois on devine, on comprend, on ressent une nouvelle profondeur qui se cache derrière les mots que je répète aujourd'hui. En tous les cas, je le répète d'abord pour moi et peut-être pour vous aussi. On a posé une question hier, mais alors si la Torah de la royauté est tellement importante, comment se fait-il qu'elle est comparée seulement à la lune, alors que la Torah de la vérité est comparée au soleil? Comment se fait-il que nos maîtres disent « Oh, il est ota boucha » Je ne vais pas refaire non plus tout le cours d'hier, mais c'est-à-dire qu'on a ressenti une honte lorsque finalement notre peuple a été dirigé par Yeshua à la place de Moshe, car ce n'était plus la même force, ce n'était plus la même intensité, ce n'était plus la même lumière. Et la question qui est au-dessus de toutes les questions que j'ai demandées hier, comment se fait-il que, alors que l'on connaît le jour où on est rentré en Eretz Israël, le 10 Nissan, alors que la Torah qui se dévoile en Eretz Israël est apparemment extrêmement puissante d'après tout ce que je viens de réexpliquer, comment se fait-il donc que ni on fête le jour de l'entrée en Eretz Israël, tout est complètement voilé, personne ne sait, c'est même pas une fête jusqu'à aujourd'hui, et comment se fait-il que finalement que cette Torah d'Eretz Israël est, et c'est incontournable, est d'une certaine manière moins forte, moins puissante, moins spirituelle que la Torah de Moshe, au point que jusqu'à aujourd'hui on a beaucoup plus d'intérêt spirituel dans notre peuple à étudier la Torah de Moshe que d'étudier la Torah qui commence à partir de Josué. Donc on a commencé à donner des éléments de réponse hier et je vais continuer à expliquer aujourd'hui. On a ramené ce problème à la lutte entre l'ange de Esav et Yaakov. Juste avant la rencontre, comme vous le savez, Yaakov se bat avec la force spirituelle de Esav, et cette force spirituelle, cet ange, arrive à le blesser à la hanche au point qu'il est boiteux. Et juste après le combat, je n'explique pas tous les aspects de ce combat, il est dit que Vayizrar, c'est dans le chapitre 32 du premier livre de la Torah, Parshat Vayishlar, Vayizrar, le verset 31, Vayizrar lo hashemesh kaasher avar et penuel, le soleil a brillé pour lui, dit le texte, dès qu'il a quitté cet endroit, l'endroit du combat qui s'appelle Pnuel, il y a une raison à cela, mais ce n'est pas important pour le cours d'aujourd'hui. Ve'ut solea al yerecho, et il boitait. Alors on a expliqué à cet endroit-là, non, et je continue, Vayizrar lo hashemesh, et donc, ve'ut solea al yerecho, excusez-moi. Et donc on a expliqué que le Zohar enseigne que ce que l'ange voulait faire, c'était priver totalement Yaakov de sa lumière spirituelle, mais il n'est pas arrivé à le priver totalement de cette lumière, et il s'est retourné, il s'est concentré sur la lumière incarnée ici par la hanche, et c'est cette lumière qu'il est arrivé à abîmer, et c'est ce qui a fait que Yaakov était soléa, que Yaakov était boiteux. Et donc, quel est le décodage? Comme on le voit, malgré le fait que Yaakov est boiteux, dès qu'il quitte cet endroit, le soleil se dévoile à lui, et le texte dit bien l'eau, comme pour montrer, c'est ce que Rashi explique. Rashi, on pourrait dire, joue sur l'insistance du verset, et dit, c'est comme si le soleil n'avait brillé que pour lui, comme pour lui montrer que malgré le fait qu'il est blessé à la hanche, le soleil continue à briller pour lui dans toute sa puissance, mais c'est vrai, malgré tout, il est boiteux. Alors on a décodé, ou plutôt on s'est servi du Zohar pour décoder. Le Zohar explique effectivement, dans un premier temps, le Samer même voulait priver Yaakov, et bien sûr, le peuple qui en sortirait, de toute relation avec le divin, le priver de toute la lumière. Mais il n'est pas arrivé à lui prendre la dimension soleil, il n'est arrivé à lui prendre, ou plutôt à affaiblir ou à blesser, la dimension incarnée par la hanche. Alors, c'est quoi le décodage? On le sait. Le soleil, c'est la Torah de Moshe qui est comparée au soleil. L'ange de Esav ne pourra jamais affaiblir la relation qui existe entre Israël et la Torah de Moshe. Pour Israël, la Torah de Moshe sera toujours la seule et unique Torah. Il n'y a ni d'ancien ni de nouveau, il n'y a qu'une seule et unique Torah, c'est la Torah de Moshe. Et on sait bien à qui l'ange de Esav fait allusion, c'est sans commentaire. Lui veut affaiblir cette Torah, et voilà que malgré tous les coups qu'il nous donne, le soleil qui est Moshe continue à nous éclairer. La Torah nous promet que Israël sera jusqu'à la délivrance finale fidèle, sans concession aucune, à la Torah de Moshe, qui est le soleil d'Israël, tel qu'on l'a reçu sur le mont Sinaï, avec toutes ses lois telles qu'elles ont été données, dans les moindres détails, non seulement au niveau de l'esprit, mais surtout au niveau de la forme, de la lettre. Mais il boite. Et le Zohar dit, c'est quoi il boite? C'est que la Torah, ou plutôt la prophétie, ou le flux spirituel qui brille à l'intérieur des frontières de notre terre, ce flux-là a été abîmé. Il a été blessé, ce qui veut dire que la lumière spirituelle liée à la terre d'Israël, ou dit d'une autre manière, la dimension spirituelle de la nation d'Israël a été blessée. Israël n'a pas été blessé en tant que peuple, mais il a été blessé en tant que nation. Esav ne pourra jamais détruire le peuple juif, même pas le blesser, mais il arrive à blesser la nation d'Israël. Il arrive à affaiblir, et on verra plus tard, plus encore, il arrive à affaiblir la lumière qui brille et qui éclaire la nation d'Israël, ce que j'ai appelé la Torah de la royauté. Alors maintenant on comprend pourquoi le Zohar révèle une chose extraordinaire, que tu as commencé d'ailleurs à deviner hier, ce qui prouve, vous voyez, que des vérités aussi incroyables que celles qui sont dans le Zohar sont à l'intérieur de l'âme de chacun d'entre nous, car comme vous le savez, chaque juif a en lui toute la Torah, simplement que nous devons faire d'énormes efforts pour redévoiler le patrimoine spirituel qui est caché au plus profond de notre âme. Et c'est pour ça qu'il nous arrive parfois de dire quelque chose qui est révélé par Rabbi Shimon Bar Yochai, une sorte d'intuition, mais tout simplement parce que on perçoit le message de notre âme qui est à l'intérieur de nous-mêmes. En tous les cas, effectivement, c'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai dit, que le premier prophète qui a commencé à faire le tikkun, commencer à faire la réparation de cette blessure qui a affaibli la lumière de la nation d'Israël, le premier prophète est Shmuel. Et pourquoi Shmuel? Et c'est la raison pour laquelle, d'abord, avant de dire pourquoi, le roi David dans les psaumes compare Shmuel à Moshe et à Aaron réunis, et on comprend maintenant d'une manière magnifique et extrêmement clair pourquoi Shmuel est comparé à Moshe et à Aaron, mais à Moshe, parce que justement, Moshe incarne la Torah du soleil. Les prophètes incarnent ou étaient censés incarner la Torah de la lune. Mais le problème, c'est que la Torah de la lune a été blessée, elle a été affaiblie. Et le premier qui a commencé à redonner à la spiritualité de la royauté, à la Torah de la royauté, le premier qui a commencé à reconstruire sa dimension et à redévoiler sa véritable dimension, c'est le prophète Shmuel. Voilà ce que nous enseigne le Zohar. Et maintenant vous allez comprendre, mes amis, quelque chose d'extraordinaire que j'ai déjà rapporté des dizaines de fois, et cette fois-ci d'une manière extrêmement claire. On a une anomalie historique qui a fait couler des milliards et des milliards de litres d'encre. Tous les commentaires d'Israël se sont posés cette question et pratiquement tous sont restés sans une réponse suffisamment claire à nos oreilles en tous les cas. Comment se fait-il qu'il a fallu attendre presque 500 ans pour que Israël se dote enfin d'un roi? Alors que le Talmud affirme, c'est un verset explicite dans la Torah, qu'il y a une mitzvah, un commandement qui nous ordonne « Soum tassim alecha meler » et tu placeras sur toi un roi. Et en plus, le Talmud affirme que Israël devait normalement, dès son arrivée en terre d'Israël, accomplir trois mitzvot, se battre contre Amalek, construire le temple et se doter d'un roi. Ou plutôt, je l'ai dit à l'envers, excusez-moi, ce doute, et l'erreur est importante, car sinon on ne peut pas comprendre ce que je vais dire après, se doter d'un roi, détruire Amalek et construire le temple. Or, le Talmud affirme que ces trois commandements, qui sont bien sûr liés, vous le devinez, devaient s'accomplir dès l'entrée en Israël. Or, il a fallu attendre 500 ans avant que n'arrive le premier vrai roi David, élève de Shmuel et nommé par Shmuel, et il a fallu attendre l'époque de David pour qu'on se débarrasse d'Amalek, définitivement en tant que peuplade, en tant que peuple tel qu'il était encore à cette époque-là. Depuis, Amalek a disparu au niveau de la lettre, mais malheureusement, il continue à exister au niveau de l'esprit. Il s'incarne de génération en génération dans différents peuples, mais en tous les cas, le peuple d'Amalek biblique a été détruit par David, et c'est son fils qui a construit le temple. Et donc, les commentaires posent deux questions évidentes. Comment se fait-il qu'on a attendu 500 ans pour faire une mitzvah tellement évidente? Et en plus, où a-t-on vu une nation dans l'histoire qui s'installe sur une terre et qui attend 500 ans, la moitié de 1000 ans, pour se doter d'une institution royale et d'un temple? Et de se débarrasser de ses ennemis. Première chose qu'on fait d'abord, c'est se débarrasser de ses ennemis. Il n'y a aucun autre cas dans l'histoire des nations d'un phénomène à ce point à l'envers. Tu t'installes sur ta terre, tu es indépendant, tu es autonome et tu n'as toujours pas d'institution gouvernementale digne de ce nom. Car comme on le sait, comme on le verra, pendant toute l'époque des juges qui a duré 500 ans, il n'y avait de gouvernement nulle part. Le gouvernement est à chaque fois provisoire, comme des nomades, là, dans la tribu où se trouvait le juge. Et comme toutes les tribus ont donné des juges, à chaque fois la capitale changeait. Vous imaginez comment qu'on peut gérer un peuple comme ça pendant 500 ans? En plus, comment se fait-il qu'on ne s'est pas doté d'un temple qui réunit véritablement tous les enfants d'Israël autour d'un même culte? Non, parce que tout dépendait d'abord de nommer un roi. Et alors pourquoi a-t-on attendu 500 ans? Parce que pour nous et chez nous, mes amis, c'est très, très, très différent. Nous ne sommes pas un peuple qui fonctionnons du bas vers le haut. Nous sommes un peuple qui fonctionnons du haut vers le bas. Tant que nous n'avons pas construit la dimension spirituelle et morale, nous refusons d'apporter ou de construire les réceptacles terrestres. Pourquoi ? Pour qu'ils restent vides ? Pour que ce ne soit qu'une illusion de le singe qui ressemble à l'homme? Non. Le peuple juif fonctionne selon le principe de la création de l'homme qui est un corps dans une âme, qui est une âme dans un corps, une énergie dans un réceptacle. Et tant que le peuple juif sait qu'il n'est pas à même de remplir son réceptacle des énergies qui vont donner une vie et un sens à ce réceptacle, le peuple juif se refuse à faire comme tout le monde, à faire semblant, à jouer la comédie d'eux. Ce monde n'est pas une comédie, la vie n'est pas du cinéma. Et donc quoi? Le peuple juif savait et sentait que depuis la lutte de l'ange contre Jacob, et depuis qu'il a cette blessure à la hanche, depuis ce temps-là, la lumière de la royauté d'Israël est affaiblie. Et donc ça ne sert à rien de se créer un semblant d'institution royale, car nous n'avons pas parmi nous ceux qui peuvent véritablement être le réceptacle de la Torah de la royauté. Et si nous nommons à notre tête un roi qui n'est qu'un fantoche de réceptacle, qui n'est qu'une illusion, qui n'est qu'une copie, mais qui n'est pas un original, le peuple juif ira à la catastrophe. Parce que le peuple juif ne peut pas fonctionner comme les autres nations. On ne peut pas décider de prendre quelqu'un et sous prétexte qu'on lui dit « t'es roi », il va devenir roi. Ça ne fonctionne pas comme ça chez nous. Le roi, le véritable roi, est un réceptacle humain qui va recevoir plus que quiconque toutes les lumières de la royauté d'Israël. Et il a fallu attendre 500 ans pour que nous puissions trouver cet homme. Cet homme, c'était bien sûr le roi David, qui va rester le symbole fondamental de la royauté d'Israël. Mais pour pouvoir, on pourrait dire, à construire cette royauté, il fallait le réceptacle, mais il fallait aussi celui qui soit capable de faire maintenant descendre la lumière de la royauté dans ce réceptacle. Et celui qui a été capable, c'était le prophète Shmuel. Le prophète Shmuel est le premier des prophètes depuis la blessure de Yaakov qui a été capable de faire véritablement descendre la lumière de la royauté à l'intérieur d'un réceptacle terrestre qui était le roi David. Et c'est ça l'union sacrée, l'union extraordinaire entre Shmuel et le roi David. On pourrait dire que David était le corps dont Shmuel était l'âme. La spiritualité, la force spirituelle de Shmuel dans le réceptacle de David. Bien sûr, dans quelques mois, Be'ezrat Hashem, on reverra beaucoup plus en profondeur ces notions. Alors maintenant, si c'est Shmuel qui a commencé à dévoiler sur terre, ou plutôt dans notre terre, la lumière de la royauté, c'est clair qu'il n'a lui-même pu réaliser cette descente véritable que grâce à tous les efforts des générations qui l'ont précédé. Et celui qui a commencé le travail, c'est Josué. Vous savez que l'histoire fonctionne comme un ta'alir, comme un processus, comme un embryon dans le ventre de la mère. Avant de devenir le plus beau bébé du monde, on a été aussi un affreux têtard, car on était tous un affreux têtard. Donc, on ne se fait pas le plus beau du monde comme ça en une seconde. Mais si le plus beau du monde n'avait pas été un têtard, il n'aurait pas été le plus beau du monde. Et donc, sans Yehoshua, il n'y a pas Shmuel. Sans tout le processus qui a duré 500 ans, il n'y a pas Shmuel. Et plus encore, nos maîtres disent « Kol atralot kashot ». Tous les débuts sont les plus difficiles. C'est-à-dire dans un parcours, dans un ta'alir, dans un processus, le commencement est le plus dur. Ce qui veut dire que tout le mérite en vérité revient à Josué. C'est pour ça que j'ai appelé son livre hier « La tête de tous les prophètes ». Comme il est d'ailleurs appelé dans le Talmud. Nos maîtres vont si loin qu'ils vont jusqu'à dire qu'en vérité, la Torah écrite se résume à deux livres. La Torah de Moshe, la Torah de Josué. Tous les autres, c'est le rajout. Pourquoi ? Parce que Torah de Moshe, c'est évident. Mais Torah de Josué, il y a tellement d'histoires beaucoup plus apparemment importantes après lui. Mais parce que nos maîtres parlent toujours le langage du cerveau, qui contient tout. Tous les autres sont contenus dans ce livre-là. Donc Shmuel a réalisé beaucoup plus que Yahushua. Mais sans Yahushua, il n'y a pas de Shmuel, il n'y a pas de David, il n'y a rien. Donc on comprend l'importance maintenant de ce qui est en train de se commencer à partir du moment où Israël, avec à sa tête Yahushua, traverse la frontière d'Israël. On va continuer un petit peu. Je vous ai fait remarquer hier que le terme utilisé dans la Torah pour parler de la blessure, c'est le terme tsoléa. Comme il est dit dans le verset 31, Ve'ut tsoléa al yerecho. Il boitait sur le côté de sa hanche. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans la Torah, le mot tsoléa, ou plutôt la racine tsela, est utilisé encore dans deux autres endroits extrêmement révélateur pour la femme et pour le temple, pour le Mishkan. Bien sûr. Allons tout de suite à la création de la femme et regardons ce qui est dit. Il est dit là-bas, Vayapel, c'est bien sûr dans la première paracha du premier livre, le chapitre 2, et on est dans le verset 21, Vayapel Hashem Elokim Tardema ala Adam, Dieu a fait descendre une torpeur sur l'homme, Vayishan, il a dormi, Vayikar Achat Mitzalotav, Et il a pris l'un de ses côtés. Ici, le mot tsela veut dire côté. Le génie de l'hébreu. Tsela veut dire boiter, mais tsela veut dire aussi côté. Il est clair, on le sait, parce que c'est une des méthodes fondamentales de l'étude, donc de la compréhension de notre Torah, que si la Torah se permet d'utiliser des mêmes mots pour dire des notions apparemment tellement différentes, c'est pour que l'on puisse faire ce qu'on appelle la Xera Shava, le système d'analogie, de comprendre qu'une notion nous renvoie à une autre. Et effectivement, Rashi lui-même va le faire sur ce verset qui parle de la création de la femme qui est appelée Tsela. Il dit pourquoi la femme est appelée Tsela, ou plutôt, dit Rashi, à quoi fait allusion le mot Tsela au niveau de la création de la femme. Ça fait allusion au Mishkan, au tabernacle, dit Rashi, car le tabernacle lui aussi est appelé Tsela, comme il est dit, Tsela à Mishkan. Le Mishkan est un Tsela, ou dans le Mishkan il y a un Tsela. Et donc Rashi fait une comparaison inimaginable, parce qu'elle est infiniment inimaginable, la comparaison que fait Rashi, entre la femme et le tabernacle. La femme est le temple de l'homme, dans les deux sens. Dans le sens qu'elle est la seule ou le seul être qui peut l'amener à la vérité, mais elle peut être aussi un temple idolâtre. Elle est aussi le seul être, ou disons d'une autre manière, il n'y a pas comme la femme pour éloigner aussi l'homme de la vérité vraie. Quand je parle ici de femme et d'homme, je ne parle pas du physique, je parle des dimensions masculines et féminines, comme vous le savez, que je le répète constamment. Donc, la femme en tous les cas est comparée à un temple, dit Rashi. Et d'où Rashi le sait? Parce que la femme est appelée Tsela et le temple est appelé Tsela. Mais moi, ce que je vous montre, c'est que la blessure de Jacob aussi est appelée Tsela. Et qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là une chose extraordinaire. Surtout aidé par le Zohar. Le Zohar révèle que ce que l'ange est arrivé à affaiblir, c'est la dimension du flux spirituel qui se dévoile en Eretz Israël, qui est ce qu'on appelle la Torah de la royauté, qui ne va commencer à se redévoiler véritablement à cause de cette blessure qu'à l'époque du prophète Shmuel qui va sacrer le roi David. Donc on voit bien que tout ça c'est lié à la royauté et à la terre d'Israël. Vous savez mes amis, puisqu'on parle du roi David, et maintenant vous allez comprendre aussi un chidouche absolument incroyable, vous savez que nos maîtres affirment dans le Talmud à la fin de Maseret Ketuvot, que tout celui qui vit en dehors de la terre, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Peu importe maintenant l'interprétation, mais en tout cas c'est ce qui est marqué. Mais vous savez d'où on l'apprend ça? Qu'un juif qui vit en dehors de sa terre, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Mais vous savez d'où on l'apprend? Du roi David. Le Talmud rapporte une phrase du roi David, qui lorsqu'il a dû l'une des X fois fuir le roi Shaoul, et le roi Shaoul le serrait de trop près, et il n'a pas eu d'autre choix que de traverser la frontière et de se réfugier en terre de Moab, David à ce moment-là a dit, tu m'as chassé, en s'adressant à Dieu, tu m'as chassé de ma terre pour m'envoyer servir les idoles. Et le Talmud demande sur ce verset, mais qui a demandé à David de servir les idoles? Surtout David. Et le texte répond, de là tu comprends que David ressentait qu'à partir du moment où il n'est plus en Eretz Israël, même s'il continue à servir Dieu, c'est à ses yeux comme s'il servait des idoles. Mes amis, je vous pose la question, comment se fait-il que c'est du roi David que l'on doit apprendre un principe aussi extraordinaire? Mais parce que David incarne la Torah de la royauté, et la Torah de la royauté est lié à la terre d'Israël. Donc comme David est l'essence même de la royauté, lié à l'essence même de la terre d'Israël, David a une sensibilité tellement poussée à l'extrême que dès qu'il se retrouve dans une synagogue en dehors de sa terre, il a l'impression d'être dans une église. Mais ça c'est David. Parce qu'il a une sensibilité poussée à l'extrême. Il est le roi d'Israël. Le vrai roi d'Israël. Je reviens maintenant sur ce que j'explique. On voit donc que la blessure est comparée aussi à ce fameux tsela. Et maintenant, on va comprendre pourquoi. Parce que ce que la Torah veut nous faire comprendre, c'est que la dimension royale est, EST, la dimension féminine à l'intérieur du peuple juif. La Torah de la vérité, la Torah de Moshe, le soleil, est la dimension masculine. La Torah de la royauté, la Torah de la terre d'Israël, la Torah de la lune, est la dimension féminine. Qui l'a compris avant nous ? Charles Trenet. Le soleil a rendez-vous avec la lune. L'un est masculin et l'autre est féminin. Mais de toute façon, avant lui, on le savait bien. Le soleil a toujours été, pas que chez nous, rendons à César ce qui est à César, dans toutes les mythologies, dans tous les peuples et toutes les religions, le soleil a toujours incarné la dimension masculine et la lune la dimension féminine, parce que la lune reçoit sa lumière du soleil, selon les schémas très classiques du masculin et du féminin, qui n'ont rien à voir avec le physique, je vous en supplie, la dimension masculine est celle qui donne, la dimension féminine est celle qui reçoit. On peut être un homme physiquement et être une femmelette, on peut être une femme physiquement et être une omelette.
Même au niveau des nations. Comment ? Même au niveau des nations, vous avez le monde occidental qui a son calendrier qui est solaire, et le monde de l'autre côté.
Ismaël, qui est lunaire, on va en reparler aussi. Absolument, on va parler de toutes ces notions-là. Donc on continue. On a avancé, on commence à comprendre. La Torah de Moshe est masculine. Elle est soleil. Mais d'un autre côté, notre Torah nous révèle que la Torah masculine n'est pas la Torah d'Eretz Israël. C'est la Torah qui peut exister et qui existera même dans son essence, aussi bien en dehors des frontières de notre terre que dans notre terre. Dit d'une autre manière, c'est la dimension masculine qui sauve Israël de la disparition. C'est normal. Le masculin, c'est le fort. Et donc automatiquement, c'est de sa dimension dont on a besoin en exil, où on est tellement affaibli. Pour ne pas disparaître, en exil, on doit être doté d'une puissance spirituelle qui a, on peut dire, le symbole masculin, la virilité et la puissance. Et c'est bien sûr tous les commandements de la Torah qui sont introduits par l'expression « Zachor, souviens-toi ». Or, le génie de l'hébreu « souviens-toi » et « masculin », c'est le même mot en hébreu. Alors, qu'est-ce que veut dire « souviens-toi » ? Merci pour la remarque. Ça veut dire « n'oublie pas, car si tu oublies, tu disparais ». Donc, le souvenir est en soi la survie. Le souvenir est la survie. Car, comme vous le savez tous, un peuple qui a un passé a donc un présent et aussi un futur. Et donc c'est pour ça que le mot « souviens-toi » qui assure notre survie et notre éternité est le même mot que le mot « mâle » dans le sens de masculin, la virilité. Donc la Torah de Moshe ne pouvait pas être donnée en Eretz Israël, parce que la Torah de Moshe est la dimension masculine dont on a surtout besoin pour ne pas disparaître en exil. Mais la Torah de Josué, la Torah de la royauté, la Torah de la lune, la Torah de notre terre est la dimension féminine. Et c'est cette dimension que l'ange de Ésav a blessée. Depuis ce combat, mes amis, la dimension féminine d'Israël est blessée. Elle a commencé prudemment et doucement à être réparée avec Josué. Elle a pu sortir de l'hôpital avec Shmuel, mais tout de suite après, il y a eu encore quelques accidents qui font que finalement, on reste boiteux pratiquement toute l'histoire jusqu'à la délivrance finale. Alors maintenant, pourquoi la royauté est comparée au féminin ? Pourquoi à la lune ? Mais la réponse est très simple. Puisque la dimension féminine est par excellence et dans son essence la dimension qui fait descendre et qui concrétise et qui réalise. L'homme donne une graine, il donne une semence. Qu'est-ce qu'en fait la femme, le plus beau des bébés du monde? Selon le schéma classique, et pardonnez-moi pour la simplicité du schéma, mais selon le schéma classique, l'homme apporte l'argent. Mais qu'est-ce qu'en fait la femme? Le cadre chaleureux de... Elle le dépense. J'étais sûr que vous alliez le dire. Excellent, magnifique. Très bien. Vous avez raison. Elle le dépense, oui. Mais je ne sais pas comment la vôtre le dépense. Mais je sais comment la mienne le dépense. Elle en fait quelque chose qui donne un sens et une force à l'existence. Une maison et tout ce qui accompagne la vie d'une maison. Et donc, en tous les cas, il est clair que l'homme le plus riche du monde, même s'il a une valise remplie de millions et de milliards, s'il n'a pas à ses côtés une femme qui donne un sens, une assise, des murs à cet argent, eh bien, l'homme est en vérité le plus pauvre des hommes. Parce qu'il reste en haut, il reste en l'air, il ne descend pas sur terre. Et donc, automatiquement, on voit, s'il vous plaît, que ce soit par le biais de l'exemple de la graine, ou que ce soit par le biais de l'exemple de l'argent, ou par tous les autres exemples qu'on pourrait apporter, l'homme, lui, apporte toujours une dimension qui est céleste, et c'est la femme qui fait descendre cette dimension et qui la réalise, qui la fait naître sur terre. C'est clair, c'est le schéma masculin-féminin, encore une fois, qui n'a rien à voir avec les limites étroites du corps, car on peut très bien être une femme et être le plus homme des hommes de la génération. On peut très bien être un homme, c'est la majorité des hommes aujourd'hui, et être plus femme que les plus femmes de toutes les femmes de toutes les générations. Comme on le sait, la dimension masculine a pratiquement disparu dans notre génération. C'était prévu aussi par les prophètes lorsqu'ils ont dit « Venashim Nashnuba », c'est la dimension féminine qui règnera sur le monde juste avant la délivrance finale. C'est tout au début du livre de Ésaïe. Et donc la dimension féminine, dans le sens que la dimension masculine a pratiquement complètement disparu. En tous les cas, maintenant, on comprend que l'ange blesse Yaakov à un endroit qui incarne la féminité. On comprend donc pourquoi la femme s'appelle Tsela. On comprend maintenant pourquoi le Mishkan s'appelle Tsela. Puisque quel est le rôle du Mishkan ? De faire descendre la présence divine sur terre. Alors vous comprenez à quoi l'immense, l'infini Rashi fait allusion lorsqu'il ose dire que le mot Tsela au niveau de la femme fait allusion à Tsela au niveau du Mishkan. Vous rendez compte ce que dit Rashi? Vous rendez compte la grandeur de Rashi? Mais Rashi a tout compris. En deux mots, il a tout expliqué. Si tu veux savoir qu'est-ce qu'est la dimension féminine ? Eh bien, regarde ce qu'est le Mishkan. C'est quoi le Mishkan ? Ve'asuli Mishkan ve'shachamti ve'tochan. Vous me ferez un réceptacle dans lequel je pourrai résider. Ne me laissez pas dans le ciel. Notre Père qui est au ciel, fait aux cieux. Faites-moi descendre sur terre. Ve'shachamti ve'tochan. Je veux résider parmi vous. Et comment s'appelle cette dimension Tsela? Et comment s'appelle la femme Tsela? Et comment s'appelle la blessure Tsela? On a bouclé notre boucle. C'est ça le combat de Esav. Le combat de Esav, c'est de s'attaquer à ce Tsela. Alors maintenant, on comprend une chose extraordinaire. C'est que finalement, si on retrouve le Tsela au niveau du combat de l'ange contre Yaakov, c'est-à-dire que l'ange ne veut pas que la vérité descende sur terre. Mais si on retrouve aussi le mot Tsela au sujet de Chava, c'est donc que l'analogie va beaucoup plus loin. Parce que Chava, elle, a eu un problème qui ressemble énormément au problème que Yaakov a eu avec l'ange. Et ça va tellement loin, mes amis, que c'est ce que le Zohar dit. Le Zohar affirme que la venue, dans le langage métaphorique bien sûr, la venue du serpent pour faire tomber Chava est exactement et en tout point la venue de l'ange pour faire tomber Yaakov. C'est le même combat. C'est le même problème, au point que Rabbi Shimon affirme que le Samer même n'est lui-même que l'incarnation du Nahash. Avec une petite nuance que je ne peux pas expliquer, mais par honnêteté je suis obligé de le dire. Si vous voulez, la force du mal a elle-même, comme toutes les forces dans ce monde, une dimension masculine et une dimension féminine. La dimension masculine s'appelle Samer même, c'est l'ange qui est venu attaquer Yaakov, et la dimension féminine s'appelle Nahash, c'est cette force qui est venue attaquer Chava. Comme Chava est une femme, donc elle a été attaquée par la dimension du mal qui est elle-même féminine, comme Yaakov est un homme, il a été attaqué par la dimension du mal qui est masculine. Mais c'est le même combat fondamental, oubliez ce que je viens de dire, ce n'est que pour ceux qui peuvent comprendre et réfléchir par eux-mêmes. Mais, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le Zohar fait une comparaison entre l'attaque contre Yaakov à l'attaque contre Chava. Et donc on comprend effectivement que l'attaque contre Chava, ce qui est donc la première faute de l'humanité, et bien c'est exactement le problème dont on parle depuis hier. Le Nahash, peu importe féminin, masculin, le Nahash ne voulait pas que la lumière de Dieu descende sur terre. C'est ce qu'il ne voulait pas. C'est pour ça qu'il s'attaquait à la femme, qui, comme dit Rashi, est le Mishkan. La femme a la capacité de faire descendre les choses et de les incarner sur terre. Et le Nahash ne veut pas ça. Il ne veut pas de la présence de Dieu sur terre. Sois le Créateur, et surtout repose-toi encore pendant longtemps, tu t'es tellement fatigué. Sois au plus le Père, mais surtout dans les cieux, mais ne sois surtout pas le roi sur terre. Ça, c'est le combat du Nahash. Maintenant, mes amis, vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire. Finalement, dans le langage codé de la Torah, le Nahash a amené la mort. Or, la mort, c'est quoi ? La mort, c'est la séparation entre le haut et le bas, entre l'âme et le corps. L'âme qui vient d'en haut, qui était descendue en bas et qui remonte vers le haut, et le corps qui s'était un petit peu élevé grâce à cette âme, puisqu'il est la seule créature qui marche sur deux jambes, à différents animaux qui sont sur quatre jambes, qui montrent que l'homme, grâce à la présence de cette âme-là, arrive à s'élever un petit peu au-delà, au-dessus de la terre. Mais quand l'âme le sépare, il retombe, et même en dessous terre. Donc on voit très bien l'image extrêmement symbolique. Tant que l'un est dans l'autre, ou l'un avec l'autre, finalement, chacun fait un bout de chemin pour se retrouver, l'âme descend et l'homme monte, et quand ils se séparent, l'âme quitte ce monde, elle retourne au ciel, et le corps redescend en dessous terre, il est enterré. Donc, maintenant au niveau du décodage, la mort est donc le symbole de cette séparation entre, finalement, ce qui aurait dû être ensemble. Finalement, l'homme, tant qu'il est vivant, d'une certaine manière, et surtout s'il est juste, est l'incarnation même de ce fameux Mishkan, de ce fameux temple qui permet la présence de la dimension spirituelle à l'intérieur de ce monde matériel. La mort est donc la mise à mort de cette réunion entre la dimension céleste et la dimension terrestre. À partir du moment où on vient d'expliquer que le Nahash s'est attaqué à Chava, et elle est donc la première qui a goûté à la mort, puisqu'elle a mangé avant son mari, je passe du code au décodage à chaque fois, puisque c'est elle qui a mangé avant son mari, donc c'est elle qui a vécu la dimension de la mort avant son mari, donc c'est en vérité surtout Chava qui est la première à avoir fait l'expérience de la mort. Simplement, après, elle a entraîné Adam pour ne pas mourir toute seule. Décoder, ça veut dire qu'à partir du moment où l'édifice a commencé à s'écrouler, ben, tous les étages sont tombés avec. Ou dit d'une autre manière, quand les fondations se sont écroulées, tous les étages se sont écroulés aussi. Mais essentiellement, le but du Nahash était de porter un coup à la dimension féminine pour empêcher la descente, pour empêcher la présence sur terre. Or, on a décodé en disant que la dimension féminine représente la royauté divine. Et donc, puisque la royauté divine est le décodage de Chava, la mort de Chava signifie la mort de la royauté divine. Et continue le raisonnement avec moi, Que signifie la mort? La séparation entre le haut et le bas. Ce qui veut dire que la royauté divine est morte. Mais que signifie la royauté divine est morte? Elle s'est séparée en deux. Une partie qui est montée, une partie qui est descendue. C'est-à-dire une royauté divine qui n'est que âme et une royauté divine qui n'est que corps. Dit d'une autre manière, c'est exactement les deux royautés divines incarnées par les symboles bibliques appelés Esav et Ishmael. Esav incarne l'âme morte de la royauté divine et Ishmael incarne le corps mort de la royauté divine. C'est-à-dire que pour Esav, mon royaume n'est pas de ce monde, notre Père qui êtes aux cieux, surtout restez-y. Et pour Ishmael, on impose la royauté divine à coups de feu et de sabre, c'est-à-dire on sème la mort pour imposer la royauté divine, et cette royauté divine n'est que corps, elle n'a pas d'âme, puisque évidemment que pour échapper au sabre, qui ne sera pas d'accord de reconnaître n'importe quoi pourvu qu'on ne lui coupe pas la tête. Donc la plus grande preuve qu'une religion est fausse, c'est quand elle s'impose par le sabre. Puisque c'est la preuve la plus absolue comme quoi on ne croit pas à ce qu'on croit croire. Puisqu'on est terrorisé par le sabre. Donc c'est un corps sans âme, c'est une royauté qui n'a pas d'âme. Et donc effectivement on va comprendre maintenant pourquoi les deux symboles bibliques qui sont, on pourrait dire, l'anti-Torah vont être Esav et Ishmael. Esav est celui qui ne va reprendre que l'esprit de la royauté, il va en faire une royauté céleste désincarnée de ce monde. Je suis venu pour l'esprit, je ne suis plus venu pour la lettre. Ce qui compte, c'est ce qui sort de la bouche et pas ce qui rentre. Ce qui compte, c'est la circoncision du cœur et pas la circoncision de la chair. Donc, la royauté de l'esprit, et à l'extrême opposé, puisqu'on parle de mort, va se retrouver la royauté du corps, où tout est extrêmement terrestre, puisque comme on le sait, Ishmael est politique où il n'est pas, selon l'expression célèbre. C'est-à-dire qu'au niveau d'Ishmael, le politique est, on pourrait dire, l'essence même de sa spiritualité. Donc, c'est-à-dire que Ishmael reprend de la dimension royale la dimension terrestre. Mais c'est un corps sans âme, puisque, encore une fois, comme on l'a expliqué, à partir du moment où tu imposes par la terreur la croyance, c'est forcément quelque chose qui est complètement déconnecté de profondeur et de sens, de la profondeur et du sens. Donc on commence à comprendre énormément, énormément, énormément de choses. Maintenant, ça va nous permettre de comprendre quelque chose de beaucoup plus fort encore. À partir du moment où on a expliqué que la Torah de la royauté est comparée à la lune, ça va nous permettre de comprendre aussi, grâce au symbole de la lune, pourquoi cette royauté, finalement, elle a tellement de haut et tellement de bas. Vous savez déjà qu'au niveau de notre loi, les rois d'Israël comptent leurs années de règne à partir du mois de Nissan, qui est le premier mois des mois lunaires. C'est-à-dire que si un roi a été nommé roi, par exemple, en Shvat, Shvat Adar, après arrive le premier du mois de Nissan, il compte sa deuxième année, alors qu'il n'a eu que deux mois dans la première. Pourquoi ? Parce que chaque premier jour du mois de Nissan, qui est le premier des mois lunaires, on entame une deuxième année de roi. Ce qui veut dire donc qu'il y a un lien clair, et c'est évident après tout ce que j'ai expliqué, entre la royauté et la lune, mais plus encore, il y a un rashi extrêmement célèbre dans le Nar qu'on verra dans quelques mois ou dans quelques années, si Dieu veut, dans ce monde ou dans l'autre, peu importe. Et qui dit que la royauté d'Israël ressemble tellement à la lune que l'on compte effectivement 15 générations de dirigeants juifs jusqu'à Salomon, et 15 générations de dirigeants juifs jusqu'à Tzidkiaou, celui qui a vécu la destruction du premier temple. Et Rachid est l'homme. Je ne les ai plus en tête, mais Rachid est l'homme. On verra en son temps. De toute façon, si Rachid le dit, faites-lui confiance. Et donc, il y a 30 rois, ou plutôt 30 dirigeants d'Israël, depuis le premier jusqu'au dernier, avec les 15 premiers qui sont en forme d'ascension, en ce sens que le sommet de la royauté a été atteint par le roi Salomon, et tout de suite après lui, le 16e, tout commence à redescendre, son propre fils, qui connaît déjà le schisme, jusqu'à Tzidkiaou, le 15e en descente, qui connaît la destruction du premier temple. C'est époustouflant ce que Rachid nous apprend là, et quand on compte avec lui, on s'aperçoit qu'effectivement, il ne l'a pas inventé. Il y a 15 montants, 15 descendants. Ce qui prouve bien que la royauté d'Israël évolue véritablement comme le cycle lunaire. C'est ce qui nous permet aussi de comprendre que dans l'essence même de la royauté, on va voir arriver dans notre histoire les plus grands justes de notre histoire, ainsi que les plus grands voyous de notre histoire. Jamais notre peuple a produit des personnages de la dimension d'un David, de la dimension d'un roi Hizkiyahou, et d'autres rois qui étaient de très 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 grands justes. Vous me demanderez, mais de quel droit je me permets de dire que David est le plus grand de tous? D'abord, première réponse, c'est pas moi qui le dis, c'est notre peuple. C'est le seul qui est repris comme étant le modèle fondamental de l'éternité d'Israël. David, Meler, Israël, Chai, Vekayam. On ne dit pas Avraham, Chai, Vekayam. On ne dit pas même pas Moshe, Chai, Vekayam. Bien sûr qu'ils sont Chai, Vekayam. Mais quand on parle du modèle éternel, Chai, Vekayam, c'est David. Alors je vous pose la question, et pourquoi David plus que Moshe? Pourquoi David plus qu'Abraham? La réponse est évidente. Parce que tu ne peux juger de la grandeur absolue d'un homme que lorsqu'il a été dans la situation la plus difficile de toutes. Or, rien n'est plus dur pour un homme que d'être un roi et en même temps être un juste. Parce que étant roi, étant dirigeant, tu es confronté d'une manière démesuré par rapport à tous les autres hommes, à des épreuves, des tentations, des corruptions, des pressions, et de tout ce que tu veux, comme aucun autre homme n'a, et si tu arrives malgré tout à rester un juste, et plus encore un juste qui est même un modèle pour les autres, imagine-toi la grandeur d'un homme pareil. Donc David, qui a été confronté à l'expérience de la royauté réelle, et qui est devenu un modèle, et donc plus grand que tous les autres, et c'est pas la peine de citer les noms, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension de ce que je dis, qui est extrêmement subtil, et qu'il ne faut pas comprendre, bien sûr, à la lettre, dans le sens où il est plus grand, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. En tous les cas, notre peuple a produit effectivement des rois d'une dimension inimaginable, dans le bien, mais il a aussi produit, précisément dans la royauté, les pires monstres de notre histoire. Monstres, manière de parler. Comme le roi Jéroboam, comme le roi Ménaché, comme le roi Ahab, qui étaient les symboles même de la voyouserie dans notre peuple ou de l'abomination dans notre peuple. Quand on veut parler dans toute la Bible de l'abomination, on prend comme exemple le roi Jéroboam. Tiens, ne sois pas comme Jéroboam. Quand tu dis à quelqu'un, ne sois pas comme Jéroboam, tu as tout dit. Donc c'est quand même un roi qu'on prend. Ce qui nous montre bien que c'est la royauté qui peut être en même temps la matrice des hommes les plus grands comme les hommes les plus bas. On a compris pourquoi. Parce que la royauté est lunaire. La royauté est féminine. Mais elle est d'abord lunaire. Et donc, en ce sens, elle monte et elle descend. Elle est pleine lune et elle est voilée. Elle est féminine aussi. Parce que la femme produit la vie, mais elle produit la mort. Elle produit la vie par l'enfant, elle produit la mort par ses règles. Et au même endroit et du même endroit. C'est extraordinaire.